En fait, le message que je veux vous donner ce matin, c'est en partie un message déjà donné il y a un an, mais que je complète. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu il y a un an, mais le thème du message, c'est « Choisis la vie ». Choisis la vie. Et ça, je l'ai entendu vendredi dernier au Château Blanc. Il y a eu tout un temps où, enfin pas vendredi dernier puisque c'était la veille œcuménique, mais le vendredi d'avant, il y avait vraiment ces voix qui s'élevaient prophétiques, choisis la vie. Notre langue peut communiquer la vie, mais elle peut communiquer la mort aussi. Choisis la vie. Et notre Église, source de vie, ça fait partie de notre feuille de route, c'est vraiment de proclamer la vie. D'accord ? Et vous vous souvenez du message que j'avais donné il y a un an ?
Non ? Moi, je m'en doute. Hein.
Voilà, vous vous souvenez ? Les deux arbres. Ok ? Les deux arbres. Ah, ça rappelle les deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Il y avait d'autres arbres aussi, mais il y avait ces deux arbres, d'accord ? Il faut que j'ai une Bible. Ouais, une Bible ici, ouais, merci. Voilà, très bien. Ok. Et dans Genèse 2, versets 8 et 9, hein, on voit que Adam et Ève sont confrontés à une parole hein, de Dieu qui leur dit expressément « Ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la vie. » Pardon. Non. Ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, voilà. Je vais m'en sortir. Hein. Voilà, vous vous souvenez de ça. Hein. Genèse 2, 8 et 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au verset 15 à 17, il est dit... Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont choisi d'y goûter. Ils ont choisi la mort plutôt que la vie. Et on est, en tant qu'enfant de Dieu, tous les jours, confronté à un choix. Celui d'Adam et Ève aussi. On a à choisir entre une attitude qui va produire la vie, des mots qui vont produire la vie, des mots et une attitude, c'est ensemble les deux, hein, ou une autre attitude ou d'autres mots qui se basent exclusivement sur ce qui est bien et mal, mais qui ne produiront pas la vie, plutôt la mort. Souvenez-vous de mon illustration, c'est un pasteur, j'ai lu ce récit dans un livre, un pasteur qui faisait une marche de prière avec quelqu'un, puis avait repéré un lieu bizarre. Avec un parking, des fenêtres fermées, des trucs, il s'est renseigné, puis quelqu'un lui a dit que c'était un lieu de dépravation, quoi. Hein, voilà, pas la peine de préciser, un lieu de dépravation. Deux jours après, ce pasteur retourne sur les lieux. Il y a un parking, et puis il va dans le parking, et puis d'un seul coup, il voit quelqu'un qui sort de ce lieu, qui est membre de son église. Qui est membre de son église. Et il se tourne vers lui, il regarde, et l'autre, plein de honte, regarde par terre. Et ce pasteur lui dit, « Frère, je vous aime, et c'est Jésus qui m'envoie vers vous pour vous secourir. » Waouh ! Il aurait pu lui dire autre chose. Hein. Il aurait pu lui dire... Tu te rends compte, c'est incroyable, enfin c'est repens-toi, vraiment c'est horrible ce que tu fais. Et il s'est pas compromis pour autant. Il n'a pas approuvé son attitude. Mais la parole qu'il a dite était une parole de grâce et une parole de vie. Voilà ce que j'avais pris comme illustration pour montrer que ce pasteur a choisi. Il a choisi l'arbre de vie dans son attitude. D'accord ? Et vous comprenez à la lumière de cette illustration ce que veut dire choisir l'arbre de vie. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de tout jugement. D'accord ? L'apôtre Paul en parle bien dans 1 Corinthiens 6. Il dit qu'on n'est pas des irresponsables, on est des gens responsables, on doit juger des situations. Mais nous n'avons pas à nous dresser contre quelqu'un. D'accord ? Nous n'avons pas à condamner quelqu'un. On doit toujours, notre combat n'est pas l'un contre l'autre. On doit toujours chercher ce qui va conduire à mon épanouissement dans le Seigneur et l'épanouissement de l'autre. Et je l'ai entendu dans une prière, vouloir à tout prix avoir raison ne donne pas la vie. D'accord ? Vouloir à tout prix avoir raison ne donne pas la vie. La solution de Paul dans ce texte de 1 Corinthiens 6, à un moment, quand il dit, bah oui, quand même vous êtes assez grand pour juger, etc., hein, pour être mûr, responsable, mais il dit, la plupart du temps, il vaudrait mieux que vous vous dépouilliez un petit peu et vous supportiez la petite injustice, quoi, qu'il ne vaut pas la peine d'en faire tout un plat. Voilà ce qu'il dit. Ouais, souvent c'est ça, hein. Notre combat n'est jamais un combat partisan. Et j'avais fait allusion à la rencontre de Josué, avant d'arriver dans la terre promise, il croise quelqu'un tout armé, et qui es-tu ? Est-ce que tu es pour nous ? Est-ce que tu es contre nous ? Et c'était l'ange de l'Éternel qui a dit, je viens ici, pas pour un parti, je viens au nom de l'Éternel des armées. Hein, es-tu des nôtres ou de nos ennemis, ouais. Il nous faut toujours être pour la vérité, mais on doit veiller constamment, consciemment et constamment à poser des gestes qui favorisent la vie. Hein? L'Église doit être un lieu de secours. On est appelé à être des sauveteurs, plus que des arbitres. Des sauveteurs, des serviteurs, des sauveteurs-serviteurs. C'est vraiment notre feuille de route là, hein? Le Seigneur m'a dit, mais redonne ce message parce que c'est vraiment, vraiment, ça fait partie de la feuille de route. Et il faut qu'on veille les uns sur les autres à tenir bon dans ce domaine. Jésus est venu non pour sauver, pardon, Jésus est venu non pour juger, oh là là, décidément, mais pour sauver. Et non, on est toujours dans ce temps de grâce. On est toujours dans ce temps de grâce, excusez-moi pour ces lapsus. Jésus viendra en juge, mais pour l'instant, on est toujours dans un temps de grâce. Et la grâce doit toujours inspirer notre usage de la vérité. J'en parlerai tout à l'heure. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Souvenons-nous de l'attitude de Jésus face à la femme adultère. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jésus n'approuve pas sa conduite, mais lui donne une porte de sortie. Et ce choix de vie désarçonne l'ennemi, souvent. L'ennemi est désarçonné quand on ne tombe pas dans le piège de l'amertume, de la colère, de la... Il ne sait plus quoi faire contre nous. Il aimerait bien nous avoir là. Il est complètement désarçonné quand on choisit vraiment cette position de vie. Quand on ne choisit pas l'irrespect, le mépris, la dérision, tout ce qui s'oppose à la vie. Chers amis, je me souviens quand j'ai donné ce message, j'étais éprouvé tout de suite après. Donc attendez-vous à être éprouvé dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Ça, souvent, quand la parole est dite et entendue, on est éprouvé, hein, testé par le Seigneur. Nous avons le choix entre... l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et j'ai envie de parler d'un deuxième choix qui est semblable. Et c'est la deuxième image. Oui. Donc elle est là. Voilà. Le choix entre deux ministères. L'accusateur. C'est toi. Celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. Ou l'intercesseur, Jésus est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en notre faveur. Et nous avons le choix, nous, entre ces deux ministères. Satan utilise, chers amis, les saints pour accomplir son travail diabolique. Le titre d'accusateur a été donné à Satan à cause de son efficacité pour réussir à amener un frère ou une sœur contre l'autre. La plus grande victoire de Satan sur l'Église, c'est d'être parvenu à tourner les frères les uns contre les autres. C'est vrai au niveau de la petite taille, c'est vrai au niveau beaucoup plus grand, au niveau de l'histoire. Lisez l'histoire de l'Église. Quand Dieu amène un mouvement de réveil, il amène les gens qui ont accueilli ce mouvement de réveil, des gens qui ont été persécutés, à devenir des persécuteurs à leur tour du prochain mouvement de réveil qui arrive. On voit ça dans l'histoire de l'Église. Et beaucoup ont remarqué ça. Juste un petit exemple. Dieu a envoyé un mouvement de réveil au début du XXe siècle. Le pentecôtisme. 1904, le réveil du Pays de Galles. Mouvement de réveil. Magnifique. Un mouvement de Dieu incontestable. Ce qui a donné naissance à l'église pentecôtiste et ces églises pentecôtistes qui sont très grandes, très importantes. Hein. Et ce mouvement a été persécuté par les églises historiques, persécuté par les catholiques. Mais qu'est-ce qui se passe quelques années après, Dieu parle à un pasteur pentecôtiste à travers un autre pasteur pentecôtiste. C'est David Duplessis qui reçoit une prophétie d'un autre pasteur pentecôtiste dont le nom, je ne vais absolument pas réussir à le dire tellement il est imprononçable, Zwivelgorf, quelque chose comme ça, enfin bon, j'arrive pas à le prononcer. Et il reçoit vraiment de Dieu, il dit à David Duplessis, tu verras par la suite, tu seras utilisé. Je vais répandre mon esprit dans les églises historiques. Ce qui sera un sujet d'étonnement. Et toi, tu vas être un canal. Et c'est vrai, David Duplessis était même jusqu'au Vatican pour témoigner. Il était témoin de ce que Dieu a fait. Et quelques années après, on a vu le Saint-Esprit qui est venu sur les églises historiques, a touché des églises catholiques, orthodoxes, réformées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pentecôtistes n'ont pas accueilli, n'ont pas reçu ce mouvement. L'église pentecôtiste officielle. David Duplessis a été expulsé de son église. Il faut lire le livre Monsieur Pentecôte. Monsieur Pentecôte. Lisez ce livre. Ouais. Monsieur Pentecôte. D'accord? Allez le trouver à la CLC. Vous devez tous lire ce livre, c'est vraiment formidable. Et on peut dire des mouvements de réveil actuellement. Des gens, Dieu a envoyé un mouvement de réveil à Pensacola, à Toronto. Moi, je crois à l'authenticité de tous ces mouvements. Bien sûr, des gens peuvent imiter, et dans l'imitation, ça fait des dégâts. Alors, soyons vigilants par rapport à l'imitation, mais gardons-nous de critiquer un mouvement de Dieu. Alors, Pensacola, c'est davantage axé sur la repentance. Toronto, c'est vraiment les manifestations du Saint-Esprit puissantes et fortes, le repos dans l'esprit. Ne dressons pas les mouvements les uns contre les autres. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à utiliser les saints, et même des saints qui ont accueilli un mouvement de réveil, contre le mouvement de réveil qui suit. L'accusation a été l'outil le plus mortel et le plus efficace pour détruire la lumière, la puissance et le témoignage du corps du Christ. La plus grande menace pour le territoire de Satan, c'est l'unité de l'Église. Ça, c'est la plus grande menace. Alors, c'est pas étonnant qu'il s'attaque à ça, hein? Le diable connaît l'incroyable autorité que Jésus a donnée dès que deux saints s'accordent. Personne mieux que lui ne comprend qu'un saint peut mettre en déroute mille. Et alors deux saints qui s'accordent peuvent en mettre en déroute 10 000. C'est 1 million? Oui? Ah oui, d'accord. Bon, alors c'est encore plus. Ouais. Comment Satan opère, hein, pour être son œuvre d'accusation? Il va accéder à beaucoup de croyants par la crainte et par l'orgueil, généralement. La crainte et l'orgueil. L'insécurité et l'orgueil. Donc soyons bien au fait pour comprendre la stratégie de l'ennemi. Et retenons cette promesse d'Ésaïe 58, versets 8 et 9. « Ta lumière poindra si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, les discours de rien du tout. » Et là, il nous est promis vraiment que si donc on note le joug de la critique au milieu de nous, alors la lumière va poindre. La lumière va poindre. La guérison va germer rapidement. La gloire du Seigneur va venir. Il répondra à nos prières. C'est Rick Joyner qui dit ceci. Rien d'autre ne peut changer l'Église aussi radicalement, y compris la vie de chaque croyant, que de changer nos critiques en intercession. Et s'ils avaient une chose à retenir ce matin, c'est ça. Nous voyons quelque chose chez quelqu'un, c'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quel va être notre premier réflexe ? La critique ou l'intercession ? C'était Arnold Mwange, un prédicateur ougandais qui était le bras droit de John Mulindé, donc qui était vraiment à l'origine, enfin comment dire, un instrument de réveil en Ouganda, qui racontait comment il voyait que son responsable avait une attitude contradictoire et qui, dans sa manière de réagir, c'était contradictoire par rapport à ce qu'il prêchait. Et le Seigneur lui a dit, Arnold, tais-toi. Mais pendant 15 jours, prie sans arrêt pour ton responsable. Il n'a rien dit. Pendant 15 jours, il a prié pour son responsable et il a vu un changement. Alors j'aimerais qu'on s'encourage les uns les autres. Je dis ça par rapport à nous tous. Enfin, donc c'est vrai pour moi qui vois aussi, c'est vrai les uns les autres. Si vous voyez même quelque chose par rapport à moi, je ne suis pas parfait, d'accord. Mais de vraiment de changer nos critiques en intercession. Ça, c'est le choix de vie. Ça, c'est le choix du bon ministère, c'est le choix du ministère de Jésus. Et c'est vraiment résister au ministère de l'accusateur. Ça ne nous est pas naturel, vous êtes d'accord ? Ça ne nous est pas naturel, La critique est l'une des suprêmes manifestations de l'orgueil. Quand nous critiquons quelqu'un, nous déclarons que nous lui sommes supérieurs. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles versets que nous devrions constamment apprendre par cœur. Et quand je suis en train de dire ça ce matin, je peux être dans l'orgueil. Je peux me dire, bon, ce message, ça serait bien, ça va parler à un tel. Youp, je suis déjà en train d'être l'accusateur. Même avec ce message qui est juste. Que dit la parole de Dieu ? Même quand on doit redresser quelqu'un, parce qu'il faut quelquefois, à un moment ou un autre, il faut quand même un moment dire, hé, attention mon frère, tu t'égares. Qu'est-ce que dit la parole dans Galates ? C'est Paul qui dit, c'est dans Galates 6, verset 1, ça vaut la peine qu'on le prenne quand même. Parce que, donc il ne s'agit pas d'être irresponsable et de ne jamais forcément rien dire. À un moment, on peut même intercéder, mais à un moment, il faut peut-être dire. Mais si on a à dire quelque chose, il faut le faire avec humilité. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Waouh. Si on critique les enfants de quelqu'un qu'on connaît, ça fait pas très plaisir aux parents. Quand on critique vos enfants, on se sent offensé en tant que parent. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Rappelons-nous, ce sont les plaintes et les murmures qui ont empêché le peuple d'Israël d'entrer dans le temps voulu, dans la terre promise, mais qu'ils ont dû tourner pendant 40 ans. Souvenons-nous, l'amour couvre une multitude de péchés. Bien que Jésus corrige, il l'encourage, il donne de l'espérance, alors que Satan nous condamne, essaye de communiquer du désespoir. Jésus nous élève afin qu'on puisse supporter la correction, tandis que Satan nous déchire en tentant de nous pousser à abandonner. L'objectif de Satan est toujours la destruction. Et vous savez, chers amis, le vrai discernement peut être à l'origine de critiques aussi. Le vrai discernement. De voir vrai. Que dit la parole de Dieu dans la définition de la prophétie ? Celui qui prophétise édifie, toujours, encourage. Si la grâce n'accompagne pas le discernement, il porte pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça, hein ? Est-ce qu'on comprend ? Il faut que la grâce accompagne toujours le vrai discernement. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Et Rick Joyner dit quelque chose d'intéressant là. Il dit ceci. Une génération spirituelle doit venir, qui sera persécutée, tout comme celle qui l'a précédée, mais qui ne persécutera pas à son tour la génération suivante. Ce mouvement ne sera pas assujetti à l'orgueil des générations. Ceux qui composeront cette génération connaîtront la grâce de la croix et auront pardonné du fond du cœur à ceux qui les auront maltraités. Ils percevront aussi et espéreront même que leurs enfants naturels et spirituels iront plus loin en Christ qu'eux-mêmes et s'en réjouiront. Ils donneront leur vie pour frayer le chemin à cette génération, pour le faciliter autant que possible. Puis ils seront heureux de se retirer, de décroître avec la montée en puissance de cette génération. Cette génération sera celle de l'esprit d'Élie qui ramènera les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers leurs pères. Notre capacité à être ou non la génération qui prépare le chemin du Seigneur et à ses objectifs ultimes sera déterminée par le ministère que nous choisirons. Choisirons-nous celui de l'accusation ? Ou celui de l'intercession. Enlevons du milieu de nous le joug épouvantable qui résulte de pointer du doigt et commençons à transformer nos critiques en intercession. Voilà le défi pour nous. Voilà notre feuille de route, source de vie Wavrin. Ça fait partie de notre feuille de route. Et j'avais dit, ça je reviens au message que j'avais donné il y a un an, ça c'est... Maintenant, je reviens à des choses que j'ai déjà dites. Le résultat de ce choix pour l'arbre de vie, pour le ministère de Jésus, l'intercession, c'est l'innocence. On retrouve notre innocence. Souvenons-nous de cette parole, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tiens, c'est le nom de notre Église. Source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Attention aux relations, parfois néfastes, des injustices qui menacent constamment notre innocence. Elles tentent sans relâche de susciter notre colère, notre amertume et de nous remplir de ressentiment, voire de haine. Voilà. Le problème. D'autres choses à dire, voilà, que de nous encourager à choisir l'arbre de vie, le ministère de l'intercession. Et trois clés, peut-être, trois clés. Protéger notre cœur, constamment. Ne jamais être partisan. Aller plus loin que la vérité, l'accompagner toujours de la grâce. Voilà. Si on peut faire attention à ça, accompagner toujours la vérité que l'on dit de la grâce. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Chers amis, faisons partie de cette génération d'Élie qui ramène le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères, qui va reconnaître le mouvement et se réjouir de la nouvelle génération que le Seigneur va lever. Une génération marquée par des gens qui vont faire ce choix, le bon choix. D'accord ? Voilà, on peut prier peut-être. Voilà, laissez monter une prière. Amen. Ouais, je vous invite à vous lever. Chers amis, veillons les uns sur les autres tout au long de cette année à faire le bon choix tous les jours. Hein? À faire le bon choix. Qu'est-ce que tous les jours on a besoin d'apprendre? Je fais des erreurs et j'ai pas toujours fait le bon choix. J'en demande pardon. J'ai manqué de vigilance quelquefois. Pardon, Seigneur. Donne-nous d'être vigilants. Donne-nous de veiller les uns sur les autres. Pour porter la vie. Donner la vie. Susciter la vie.